minutes. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Il y a des courses à Cabourg. La combinaison du Quintet Plus pour gagner, il fallait jouer le 12, le 16, le 7, le 2 et le 8. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. Tout de suite, 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet.
Bonjour. Aujourd'hui, comme hier, au micro de 2000 ans d'histoire, un grand témoin, Jean-Pierre Chevènement. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Jean-Pierre Chevènement, 2 février 1983. Ans d'histoire. Cinq fois ministre et trois fois démissionnaire, Jean-Pierre Chevènement a toujours préféré renoncer à ses fonctions que d'avoir à fermer sa gueule, comme il le disait déjà en 1983, avant de quitter une première fois le gouvernement, plutôt que d'y accepter la politique de rigueur voulue par François Mitterrand. Depuis le congrès d'Épinay jusqu'à sa candidature à l'élection présidentielle de 2002, le Che, comme on l'appelle, n'a jamais transigé avec les principes qu'il avait fait entrer au Parti Socialiste au milieu des années 60, quitte à le payer très cher. Ce fut le cas en 1991, quand en pleine guerre du Golfe, Jean-Pierre Chevènement avait claqué les portes du ministère de la Défense, plutôt que d'y cautionner par sa présence une intervention française en Irak à laquelle il était hostile. France Inter, Patrice Bertin, le 29 janvier 1991.
France Inter.
Sa couvée, c'était inévitable, allergique à la logique de guerre et encore plus à la guerre tout court, Jean-Pierre Chevènement n'est plus ministre de la Défense. Chevènement a remis sa démission ce matin, la démission de Chevènement au 13e jour de la guerre. Réaction de l'homme de la rue, des Parisiennes et des Parisiens, interrogé par Frédéric Barrère.
Ça ne m'étonne pas, il est dans une position terriblement difficile à tenir.
Je crois qu'il a bien fait.
Si ça correspond vraiment à ce qu'il pense, il vaut mieux aller jusqu'au bout de ce qu'on pense que de rester solidaire de son parti politique.
Vous trouvez pas bizarre que le ministre de la Défense en pleine guerre démissionne?
C'est lâche, mais ça va bien avec son tempérament, donc c'est pas une surprise.
Un ministre de la Défense qui démissionne en pleine guerre, au 13e jour, ça fait désordre. C'est même du jamais vu dans l'histoire de la République.
Jean-Pierre Chevènement, bonjour.
Bonjour.
Alors, de vos trois démissions du gouvernement, en 83, en 91 et en 99, c'est sûrement celle que l'on vient d'entendre, dont on se souvient le mieux. Vous étiez, on l'a entendu, ministre de la Défense, en charge de l'armée française, qui se battait depuis quelques jours dans la première guerre du Golfe, et vous démissionnez quelques jours après qu'elle ait commencé, si bien que certains, on l'a entendu, ont même parlé de trahison, de lâcheté. Je crois même qu'il y a un ministre, un ancien ministre, qui envisageait de vous faire envoyer devant la haute cour, je suppose. Que ça a dû vous faire mal, ces réactions-là?
C'était très difficile. Mais j'écoute ce qui se dit là sur vos ondes. Il fallait être très courageux pour aller contre l'opinion, pour aller contre une résolution prise par le Conseil de sécurité presque à l'unanimité. Il n'y avait que, je crois, le Yémen et Cuba pour s'y être opposés, qui autorisaient la guerre. Une guerre dont je savais qu'elle était arrêtée dans l'esprit des dirigeants américains depuis le mois d'août 1990, que j'ai cherché à faire dévier de son cours, et une guerre qui était disproportionnée, qui n'avait pas pour but l'évacuation du Koweït, mais de briser l'Irak, de transformer l'Irak en épouvantail pour justifier la présence militaire directe des troupes américaines dans cette région du monde où sont concentrés les deux tiers des réserves pétrolières mondiales. Donc, j'avais envoyé une première lettre à François Mitterrand le 7 décembre. Il m'avait demandé de sursoir pour favoriser diverses médiations, dont l'une d'ailleurs a curieusement abouti à un projet de résolution avorté le 15 janvier. Nous avons considéré, François Mitterrand et moi, qu'il y avait encore un créneau Je veux dire que ça se passait après une intervention à l'émission d'Anne Sinclair de l'amiral Langsad. Je ne considère pas que le ministre intérieur puisse être à ce point désavoué. Donc, je
ministre préférer... de la Défense, hein, vous étiez pas.
Ministre de la Défense, ouais. Ministre de la Défense. Non, et puis je pense que ceux qui me jugeaient un peu vite à l'époque peuvent le faire aujourd'hui avec le recul de l'histoire. Et voir que la politique américaine telle qu'elle s'est développée, cette guerre contre l'Irak à partir de troupes américaines stationnées en Arabie Saoudite a ouvert la voie à Ben Laden, à l'intégrisme, et aujourd'hui débouche sur un conflit de civilisation. Donc je suis très fier de cet acte qui a été très difficile.
Avec une lettre qui commence sur un ton gaullien, une lettre de démission, une certaine idée de la République. Ça fait penser à une certaine idée de la France, Jean-Pierre Chevènement.
Encore, oui, je pense
encore
que...
du gaullisme là-dedans.
Non, je pense que la République française avait mieux à faire que de se mettre à la remorque des intérêts pétroliers et de régimes, dans le moins qu'on puisse dire, qu'ils ne sont pas très républicains dans cette région du monde. Donc, j'ai considéré que, par respect pour l'idée que je me fais de la République et de la France, il valait mieux que je me mette à l'écart. Je pense avoir mieux servi ainsi mon pays que si j'étais resté en fonction.
Alors, vous quittez vos fonctions de ministre, vous continuez à vous battre pour une certaine idée, comme vous le disiez, de la République, et notamment à vous battre contre un accord qui doit être soumis à référendum quelques mois plus tard, les accords de Maastricht, où vous vous retrouvez d'ailleurs en compagnie d'un certain nombre de gaullistes qui y sont également hostiles, qui font voter non, mais aussi de quelques ténors de la droite, Charles Pasqua, Philippe de Villiers et même Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça ne vous gêne pas de vous retrouver à cette occasion-là dans le même camp que les gens que je viens de citer? Il y avait aussi certes le Parti communiste.
Écoutez, j'avais ma propre analyse. Et au départ, j'avais voté l'acte unique. Je m'en suis repenti. Quand les capitaux, les moyens de capitaux ont été libéralisés sans contrepartie. Et quand j'ai eu lu le texte du traité de Maastricht, il était clair dans mon esprit que je ne le voterais pas. L'indépendance de la Banque centrale, politique monétaire ultra-orthodoxe, l'absence de flexibilité budgétaire, ce qu'on appelle le pacte de stabilité budgétaire, le principe de la concurrence, érigé en dogme et surplombant tout l'édifice, hein, et aboutissant au démantèlement des services publics, je ne pouvais pas me reconnaître dans ce texte. Donc les raisons pour lesquelles les uns et les autres votent peuvent être différentes. On peut penser qu'entre Valéry Giscard d'Estaing qui a voté oui, Jacques Chirac, François Mitterrand, peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Hein, donc soyons sérieux. Non, je ne regrette pas d'ailleurs ce choix, parce qu'aujourd'hui le problème se pose à l'évidence avec la Constitution européenne qui veut maintenant constitutionnaliser toutes ces règles, qui est vraiment quelque chose que je ressens comme très grave, parce que si on s'enferme dans cette politique pendant 30 ans, qu'est-ce que nous laisserons à nos petits-enfants?
On viendra sur cette Constitution, Jean-Pierre Chevènement, mais là nous sommes en 92, donc vous lutter contre Maastricht, vous le faites avec un mouvement que vous créez en dehors du PS, le mouvement des citoyens, ce qui vous conduit en 1993 à claquer la porte d'un parti socialiste dont vous étiez membre depuis près de 30 ans. France Inter, Patrice Bertin, le 19 avril 1993.
Sortie de secours pour Chevènement, l'ancien ministre et toujours député maire de Belfort quitte le parti socialiste. Je n'appartiens plus au PS, ce qui s'est passé rue de Solferino ne m'intéresse pas, a-t-il déclaré ce matin.
On ne va pas reconstruire à partir de l'ex-PS. Donc, il faut reconstruire à neuf. Et c'est ce que nous allons entreprendre de faire avec le mouvement des citoyens. Je pars avec peu de moyens, mais j'ai des idées. Nous savons que le chemin sera difficile, mais nous ne partons pas tout à fait de rien. Et nous pensons pouvoir attirer la jeunesse, dire quelque chose qui parlera au monde du travail, au monde de ceux qui produisent et qui créent. Donc, nous sommes tout à fait optimistes quant à notre capacité de rassembler.
C'était votre départ du PS, donc en 1993, Jean-Pierre Chevènement, vous rompez les amarres, vous prenez le large avec votre mouvement des citoyens. Ça n'a pas dû être facile, avant qu'on évoque ce mouvement, de quitter quand même un parti au développement duquel vous avez très largement contribué.
Oui, j'y avais beaucoup investi, et à vrai dire, j'ai beaucoup hésité. Si j'ai quitté le Parti Socialiste à ce moment-là, c'est que, véritablement, après la guerre du Golfe et Maastricht, je n'attendais plus grand-chose avant très longtemps. On ne peut pas, après 30 ans, considérer que dans 30 ans, peut-être, on pourra redresser les choses. Et le score du référendum sur le traité de Maastricht, 49-51, autorisait quelques espoirs. En réalité, le nom était trop hétérogène. Et nous n'avons pas réussi parce que nous ne pouvions pas rassembler, compte tenu de ce qu'était notre ligne politique républicaine, des gens qui étaient dans le rejet pur et simple.
Là, vous parlez de votre mouvement, le mouvement des citoyens.
Le mouvement des citoyens. Ou alors des gens de gauche pour qui la nation n'existait pas. Et la République encore moins. Donc c'était en fait très difficile. C'était une entreprise audacieuse. Je pense que, bon, bah, dans la vie, il faut tenter. Ceux qui n'essayent jamais ne réussissent jamais non plus. C'est très facile de dire, il faut rester là où vous êtes parce que vous avez beaucoup investi. Alors, soyez prudents, ouvrez le parapluie, etc. Oui, effectivement, j'aurais pu rester une sorte de ponte en semi-retraite du Parti Socialiste.
Oui. Cela dit, c'est vrai que votre ambition de rassembler n'a pas été couronnée de succès. Vous évoquez le résultat du référendum. Il y a aussi le résultat des élections européennes. 2% pour votre mouvement des citoyens.
2,54 précisément.
2,54, oui. Bon, c'est pas le grand rassemblement auquel vous rêviez, je suppose. Le PS, cela dit, lui-même était au plus bas. Il venait d'être écrasé littéralement aux législatives de 93, battu également à la présidentielle de 1995, pendant laquelle vous avez soutenu Lionel Jospin. Vous rompez pas totalement les points avec le PS. En tout cas, Jospin, vous le soutenez à ce moment-là.
Mais vous savez, quand j'ai quitté le Parti Socialiste, j'ai pensé que nous recréerions un rapport de force et que nous pourrions nous rapprocher à nouveau. Ce n'était pas une rupture brutale et forcément définitive dans mon esprit. Le Parti Socialiste lui-même ne fait pas un bon score aux élections européennes de 1994. Hein, il fait 14%. Donc tout est à reconstruire. Et en 95, il me semble qu'on peut faire un pari qui peut paraître risqué sur Lionel Jospin, parce que nous n'étions pas d'accord sur bien des choses. Il n'avait pas été d'accord avec moi sur la guerre du Golfe, il en était partisan. Sur Maastricht, il avait formulé sa position comme étant un non au non, plutôt qu'un oui. Par ailleurs, je le connaissais depuis longtemps, nous avions été à la même promotion. Donc, j'espérais pouvoir...
Aléna.
Oui, Aléna.
Promotion Stendhal. C'est vous, d'ailleurs, qui avez donné le nom, je crois, à la promotion. Absolument. Parce que vous aimiez Stendhal. Enfin, là, je vous ai interrompu.
Et je dirais que c'était un pari. Nous avons posé des conditions pour le passage à l'euro. Certaines ont été satisfaites. Et la dissolution surprise de 1997 a créé les conditions du gouvernement de la gauche plurielle. Alors, à ce moment-là, ben, le vin est tiré, hein, il faut le boire. C'était, je dirais, un pari. Ce pari aurait-il pu réussir? Rétrospectivement, je pense que non. Alors, il est peut-être mieux valu que je m'abstienne de participer, mais les divergences de politique économique, de politique extérieure étaient sans doute trop profondes.
Alors, participer, effectivement, vous le faites en 97, Lionel Jospin vous fait entrer dans son gouvernement comme ministre de l'Intérieur, et il vous soutient contre beaucoup de socialistes, d'ailleurs, dans votre politique de lutte contre l'immigration sauvage en 1998 et contre la délinquance des mineurs, auxquels vous avez donné un surnom dont tout le monde se souvient, c'était le 11 janvier 1999.
La délinquance est de plus en plus le fait de mineurs. Tant qu'ils n'ont pas 16 ans, eh bien, on en est réduit à des admonestations, à des travaux d'intérêt général. Et je pense que la réponse n'est pas à la hauteur de ce que sont ces sauvageons. Il faut pouvoir, je dirais, prendre ces jeunes et puis les mettre hors du quartier où ils sévissent.
Lionel Jospin, main dans la main avec Jean-Pierre Chevènement sur la question de l'immigration. Le Premier ministre fustige ceux qui incitent les sans-papiers à ne pas partir.
France Inter.
Cela ne peut pas être aux personnes qui vont être reconduites à la frontière, une fois que les voies de droit ont été légitimement utilisées, de décider à notre place s'ils partiront ou non. Sinon, il n'y a plus d'État, il n'y a même plus d'État de droit.
C'était donc Lionel Jospin soutenant en 1998 votre politique d'immigration, Jean-Pierre Chevènement, comme il a soutenu quelques mois plus tard votre lutte contre la délinquance des sauvagions, comme vous les appeliez.
Vous me permettrez une interruption. D'abord, sauvageon, ça veut dire, en bon français, un arbre qui n'a pas été greffé. J'impute donc, je dirais, certains crimes commis par des délinquants mineurs au fait qu'ils n'ont pas reçu d'éducation, qu'ils ont cru, je dirais, de manière totalement fruste, comme des plantes laissées à l'abandon. Donc j'incrimine l'éducation. Je fais un lien entre la politique de sécurité et d'éducation. Ma deuxième observation, c'est que Lionel Jospin soutient ma politique, mais moi je soutiens Lionel Jospin. Mmh. Ses politiques étaient très difficiles à mener, très peu populaires, il faut bien le dire, parce que c'est toujours difficile hein, de serrer la vis. Mais pourtant, c'est nécessaire de faire respecter la loi. Et la majorité de l'époque était totalement indisciplinée. Je me souviens
d'une loi. Majorité de gauche,
Majorité de gauche. Mmh. Je me souviens d'une loi qui est passée, les Verts refusant de prendre part au vote, les communistes votant contre, certains socialistes aussi, et des manifestations partout dans le pays soutenues par des élus dits de gauche. Donc, il y a un moment où il faut savoir où est l'État. Et il faut... si j'ai accepté ces responsabilités, c'était pour donner au gouvernement de la gauche plurielle des marges de manœuvre dans d'autres domaines qui m'intéressaient. La politique économique, la politique industrielle, la politique sociale, la politique étrangère.
Mais là encore, il faut bien admettre, en matière d'immigration, en matière de lutte contre la délinquance des mineurs, vous allez un peu à l'encontre, vous prenez à rebrousse-poil une culture de gauche qui n'est pas, en principe, sécuritaire ou contre l'immigration, Jean-Pierre Chevènement.
Oui, mais où est l'intérêt, public? Et est-ce qu'on peut construire la gauche en dehors d'une référence à l'État, à l'ordre, auquel tout citoyen peut prétendre avoir droit? Est-ce que la sûreté n'est pas une valeur républicaine et même révolutionnaire? Donc, je crois que c'est une grande faiblesse pour une certaine gauche bien pensante qui habite les beaux quartiers de ne pas se mettre à la place des gens qui vivent dans des cités difficiles et qui voient, par exemple, brûler leurs voitures.
Alors cela dit, vous disiez que vous étiez impopulaire. Bon, c'est peut-être le cas auprès des Verts, auprès des...
C'était prendre le risque de la popularité,
oui, de la popularité
à gauche.
Parce que vous ne l'étiez pas. Je rappelle aussi que en 1998, il y a cet accident, on l'a évoqué hier, qui vous est arrivé sur une table d'opération. Vous arrivez au Val-de-Grâce pour une opération bénigne, et puis vous tombez dans le coma. Alors là, toute la France s'est brusquement demandé ce qui allait vous arriver. Moi, je me souviens très bien de ce moment-là. Quels sont les souvenirs que vous avez, les premiers souvenirs que vous avez après 10 jours de coma, je le rappelle, Jean-Pierre Chevènement?
Écoutez, je revois quelques médecins qui s'affairent autour de moi. On me donne une ardoise et je peux écrire. Je suis très tuyauté, hein, plus tuyauté que aucun
parler,
médecin à l'intérieur ne l'a jamais été. Hein, il y a 9 tuyaux qui se rattachent à divers orifices. Donc je suis quand même pas en très bon état, mais je m'en rends pas compte et j'ai envie de partir. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai rien à faire dans cet endroit. Les médecins me disent que ce n'est pas possible. J'en suis tout à fait révolté. J'écris sur une ardoise qu'on me tend, primum non nocere. Je vois les médecins qui, visiblement, ne connaissent pas le latin. J'écris mais natura medicatrix. Ce sont les deux premiers serments d'Hippocrate. Enfin, c'est le serment d'Hippocrate, ce sont les deux premières formules. D'abord, ne pas nuire, et ensuite, la nature est le meilleur remède. Autrement dit, foutez-moi la paix et laissez-moi partir. Hein, et ils sont très inquiets, ils me regardent, et il y en a un qui dit, il ne parle plus que le latin.
Non, c'est assez extraordinaire. Vous avez conscience que vous êtes un miraculé, quand même. Comme tout le monde en avait conscience.
C'est ce qu'on l'a dit à cette époque-là. Et mes camarades, qui sont des laïcs intransigeants, étaient très agacés par l'idée que je puisse être décrit comme un miraculé. Donc, Georges Sarre, en particulier, a dit, il faut qu'il soit clair que si c'est un miraculé, c'est un miraculé républicain. Voilà. L'expression n'est pas de moi, elle est de Georges Sarre.
En tout cas, vous ne changez pas, Jean-Pierre Chevènement. Vous revenez au ministère de l'Intérieur. Et pour la troisième fois, vous démissionnez pour cause de politique corse de Lionel Jospin. France Inter, Fabrice Drouel, le 29 juillet 2000.
France Inter.
Mon départ du gouvernement est la conséquence logique de l'impossibilité où je me suis trouvé de présenter au Parlement le projet de statut sur la Corse, projet dont je désapprouve la perspective et le contexte dans lequel il se place. En ce moment, ma pensée va spontanément vers les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. J'ai aimé ce ministère. Ainsi s'exprimait Jean-Pierre Chevènement ce matin dans son communiqué expliquant sa démission, un départ annoncé hier, un départ effectif aujourd'hui.
S'il n'est pas d'accord avec les gens, oui, il a raison, hein, entièrement raison, moi je dis.
Personnellement, je trouve que dans ces trois démissions qu'il a faites, il a toujours eu le courage de ses actes. Donc je suis tout à fait pour. Déjà par rapport à la Corse, continuer à subvenir aux gens alors qu'on leur accorde une certaine indépendance, je ne trouve pas ça tout à fait normal.
Il avait pris des engagements, il suivait sa politique, donc il devait rester.
Est-ce que c'est pénalisant pour Belfort?
Non, pas du tout, au contraire. Moi, je pense qu'il va revenir dans Belfort. Non, non, c'est très bien. Moi, je suis contente qu'il ait parti de là-bas.
C'était la réaction des Belfortins après votre troisième départ du gouvernement. Ils sont contents de vous retrouver. On n'a pas parlé de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, mais vous en étiez quand même le député depuis 1974, le maire depuis 1983, et très présent, je crois, malgré vos activités gouvernementales.
Oui, j'y ai consacré une grande partie de ma vie, je peux dire la moitié de mes semaines, et ça représente des heures de travail. Mais je considère que la confiance que les Belfortins m'ont témoignée pendant près de 30 ans, et d'autre part le travail très gratifiant que j'y ai fait, ont été pour moi une source permanente de satisfaction. Et en même temps, je suis très inquiet pour... naturellement l'avenir de notre région, parce qu'il y a le problème d'Alstom, il y a la désindustrialisation, les délocalisations, les plans sociaux, et nous vivons tout cela dans notre grande région industrielle d'une manière particulièrement rude. Mais en même temps, j'ai la satisfaction d'avoir attaché à mon nom quelques grands dossiers, le dossier de l'Université de Technologie, le Centre National de la Recherche sur les piles à combustible, et beaucoup d'autres choses encore.
En tout cas, c'est à Belfort et à partir de Belfort que vous continuez à vous battre pour le renouveau du socialisme avec votre mouvement des citoyens, dont vous êtes tout naturellement le candidat en 2001 pour l'élection présidentielle d'avril 2002.
Il est temps de sortir du système binaire. Je n'appelle plus ça bipolarité, non. J'appelle ça système binaire. Toc, toc. Chirac, Jospin, Jospin, Chirac, sans que, sur les sujets essentiels, on ne voit plus en quoi ils se différencient vraiment. Il faut sortir de ce système binaire appauvrissant pour le débat démocratique. Il ne suffit pas d'un troisième homme, même si je suis le mieux placé. Hein? Mais mon ambition n'est pas d'être le troisième homme, c'est d'être le premier.
Et c'était votre candidature à l'élection présidentielle d'avril 2002, Jean-Pierre Chevènement.
C'est le discours de Vincennes.
Oui. Alors, vous, à l'occasion de laquelle vous n'avez été, contrairement à ce que vous disiez, ni le premier, ni le deuxième, ni même le troisième homme, vous avez obtenu, je crois, moins de 6% des voix, et on vous a reproché, les partisans de Lionel Jospin vous ont reproché, finalement, en lui retirant des voix à gauche, d'avoir contribué à ce que lui soit le troisième homme derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Alors, ce reproche, qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui?
Je pense que c'est un procès tout à fait injuste, car nous avions des lignes politiques tout à fait différente. Nous étions en désaccord sur la plupart des sujets. Et le pari que nous avions tenté avait échoué. Et si j'ai quitté le gouvernement à l'occasion du retournement de la politique gouvernementale sur la Corse, c'est aussi parce que sur beaucoup d'autres sujets, l'Alstom, la politique étrangère, la politique de sécurité, la politique concernant par exemple la délinquance des mineurs, les moyens dont j'avais besoin au niveau de la police sur aucun de ces sujets, je n'avais eu gain de cause. J'ajoute que ce n'est pas moi qui ai inventé le sommet de Barcelone, où Lionel Jospin et Jacques Chirac ont préconisé ensemble la libéralisation des services publics de l'énergie, avec ce qu'on voit aujourd'hui à l'EDF, le report de 5 ans de l'âge de la cessation d'activité, le retour à l'équilibre budgétaire dès 2004. Propos tout à fait déraisonnables. Donc, à certains moments, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est un déni de démocratie que de m'attaquer comme si j'avais fait perdre Lionel Jospin. Hein, d'ailleurs, j'ai pris plus de voix à Jacques Chirac qu'à Lionel Jospin d'après les sondages sortis des urnes. J'ajoute que Lionel Jospin n'avait aucune chance d'être élu au deuxième tour. Hein, et ça résulte du fait que les candidats de droite et d'extrême droite avaient 57% dès le premier tour. Donc, c'est un procès qui a été mené politiquement, avec méthode, pour éradiquer le mouvement des citoyens, ou le mouvement républicain citoyen. Disons que les socialistes la direction du Parti Socialiste a préféré faire élire des députés de l'UMP plutôt que des députés du mouvement républicain et citoyen.
Malgré les déceptions quand même d'un certain nombre de vos projets, l'échec par exemple de la présidentielle de 2002, vous continuez à vous battre au fond comme si rien ne pouvait vous décourager. Vous vous battez contre la Constitution européenne, l'entrée de la Turquie en Europe.
Non, je ne me bats pas contre l'entrée de la Turquie en Europe. Je suis pour la Turquie dans une Europe des nations.
Pas dans l'Europe
telle qu'on nous la présente.
La Constitution, hein, avec des votes à la majorité qualifiée, une pondération démographique, non. Ça, non. Mais pour que la Turquie fasse partie du concert européen, c'est pas un problème pour moi. C'est le cas déjà depuis très longtemps, hein, depuis le XVIe siècle.
Et vous disiez déjà non aussi à Maastricht, non à la guerre du Golfe. Décidément, on a le sentiment, Jean-Pierre Chevènement, que vous dites toujours non. Est-ce qu'il vous arrive de dire oui?
Mais dites-moi, mais non. Ils avaient quand même un fondement sérieux. Le tournant de 83, la parenthèse libérale, c'est ce qui agite aujourd'hui le Parti Socialiste. C'est donc que je n'avais pas tout à fait tort, quand même, de leur dire qu'ils prenaient un virage qui les conduirait là où ils ne voulaient pas aller. Le non à la guerre du Golfe, hein, il était fondé sur une juste appréciation de ce que voulaient les Américains, c'est-à-dire coloniser cette région et ses gisements de pétrole. Et aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de gens sont sur une ligne qui était la mienne à cette époque-là. Sur la Corse, les électeurs corses m'ont donné raison. Ils ont eux-mêmes mis fin au processus de Mézignon qu'avait lancé Lionel Jospin, contre mon avis. Donc mes noms étaient des noms positifs et chargés d'avenir. Et chaque fois que j'ai arbitré dans ce sens, je l'ai fait, croyez-le, sans joie. Très souvent, j'ai accepté des compromis. Je suis quand même resté 10 ans au gouvernement. Et je suis à l'origine de quelques réformes comme les baccalauréats professionnels, le plan Armée 2000, bien d'autres choses encore. J'ai lancé la consultation sur le culte musulman. Enfin, je ne vais pas énumérer mes titres de service, n'est-ce pas? Mais d'une manière générale, quand on dit non, il faut que ce non soit sur un sujet vraiment important. Et à chaque fois que j'ai dit non, je l'ai dit sur des questions qui en valaient la peine. Et j'ai dit oui à beaucoup d'autres choses. J'ai d'abord dit oui à l'Union de la Gauche et même au Parti Socialiste. Quand j'y ai adhéré en 1964, ce n'était pas facile. J'ai dit oui à de nombreuses reprises, mais à chaque fois, il y a dans la politique une dimension de pari. Vous n'êtes jamais sûr d'avoir raison. Hein, je n'ai pas gagné tous mes paris, mais... Je dirais que je me suis toujours défini par rapport à l'intérêt de la République, de la France. Et aucun des combats que j'ai menés n'a été vain. Tous sont à poursuivre et tous les défis dont je parle sont encore à relever.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Pierre Chevènement. Je rappelle donc le titre de votre livre dont je recommande la lecture, Défis républicains, qui a été publié chez Fayard. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Clotilde Thomas, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Amélie Briand et à la réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire avec Vladimir Fedorovski, la dernière impératrice de Russie, Alexandra, tuée pendant la révolution russe en 1918. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, votre rendez-vous avec Eric Oswald. Bonjour Eric.
Bonjour Patrice, à demain.